Pendant très longtemps, une croyance très largement répandue affirmait que l'homme naissait avec un quota limité de neurones et que notre cerveau n'avait pas la capacité d'en produire de nouveaux. On sait aujourd'hui qu'il n'en est rien et que la plasticité de notre cerveau permet de créer justement de nouveaux neurones à tous les âges de la vie. Cette découverte récente éclaire d'un jour nouveau l'idée de régénérescence du cerveau. Et c'est aujourd'hui le dossier de l'émission avec mon invité, le neurologue Pierre-Marie Liédot, qui a découvert la fontaine de jouvence de nos neurones. On le retrouve dans un instant avec toutes vos questions et vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, de nouvelles espèces animales et végétales découvertes sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, 5 espèces protégées supplémentaires. C'est ce que révèle la contre-expertise réalisée par le collectif Naturaliste en lutte. Assez, selon eux, pour réouvrir le dossier de construction de l'aéroport. On en parle dans un instant avec vos questions sur Twitter également.
Stéphanie Texier réalise cette nouvelle tête au carré préparée aujourd'hui par Lucie Sartre Fatih avec Carole Sauvage.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La fontaine de jouvence de notre cerveau, voilà ce que nous allons donc explorer cet après-midi dans le dossier de la tête au carré avec vous, Pierre-Marie Liédot. Bonjour.
Bonjour.
Notre cerveau est donc capable de fabriquer de nouveaux neurones jusqu'à un âge très avancé de la vie?
En fait, il n'y a pas d'âge limite. En fait,
hein. C'est formidable ça. Hein.
Tant qu'on s'en sert, voilà. Il va bien.
Ouais. Et ça, c'est une découverte très récente.
C'est une découverte contre un dogme central en neurologie qui voulait qu'on naisse avec un quota et qu'à partir de 25 ans, nous ne ferions qu'en perdre.
Ouais, donc voilà un beau changement de paradigme
qui
a bouleversé et qui donne plein d'espoir, effectivement, à tout ce qui tourne autour entre des maladies du cerveau. Cet organe, donc, il n'est plus figé comme on le pensait avant et on va explorer avec vous donc sa plasticité avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et à la une de la science aujourd'hui, 5 nouvelles espèces protégées trouvées sur le site du futur, peut-être, aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Vous avez entendu parler du petit campagnol, le campagnol amphibie. Sur Notre-Dame-des-Landes, on retrouve une densité et une présence de cette espèce qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le département, et ni même en France. C'est le cas aussi des tritons, ils ont fait parler d'eux. Les grandes espèces de tritons, hein, notamment triton marbré, triton crêté, triton de Blasius, sont en densité énorme.
Et c'est un extrait de la présentation faite jeudi à la presse par le collectif Les Naturalistes en lutte, dont vous êtes le porte-parole, François de Beaulieu. Bonjour. Vous êtes en ligne avec nous et à mes côtés en studio se trouve comme tous les lundis Hervé Kempf pour le site reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
François de Beaulieu, pendant 3 ans, un dimanche sur 2, vous avez traqué, inventorié toutes les espèces animales et végétales présentes dans la zone humide de Notre-Dame-des-Landes, donc fameuse aujourd'hui pour son peut-être futur aéroport, on le verra. Une contre-expertise en tout cas qui s'est avérée fructueuse puisque vous dénombrez plus de 1500 espèces, dont 5 protégées qui n'avaient pas pour l'instant du tout été prises en compte par les dossiers réglementaires, François de Beaulieu. Hein.
Oui, au total, il y a plus de 130 espèces protégées sur la ZAD et on ne vient pas de trouver les 5 nouvelles espèces oubliées par les bureaux d'études, simplement on vient de se faire entendre à ce sujet. On avait même écrit au préfet il y a déjà plus d'un an pour les lui signaler, mais ça ne lui a fait ni chaud ni froid apparemment.
Quelles espèces alors? Est-ce que vous avez resignalé donc du coup?
Alors, les espèces, il y a 3 espèces végétales, la cithorbe d'Europe, par exemple, la cicindie, naine, la pulicaire annuelle, et la musaraigne aquatique, dont on savait qu'elle était potentielle, mais elle n'avait pas été vue, nous on l'a vue, le triton de Blasius, qui est quand même un grand triton, c'est même le plus grand de la bande, il fait plus de 18 cm, on en a trouvé un qui faisait 18 cm
de long. C'est du beau triton.
C'est des beaux tritons et en plus, on pouvait bien deviner qu'ils étaient là puisque c'est un hybride du triton marbré et du triton crêté et qu'il y avait les 2 autres espèces qui étaient présentes. Nous, on l'a repéré dans 8 mares, mais il est sûrement dans beaucoup d'autres et c'est quand même incroyable que les bureaux d'études ne l'aient pas vu.
François Beaulieu, qu'est-ce que signifie exactement le terme « espèce protégée » dans le cas de ces 5 espèces?
Eh bien, ça veut dire qu'elles sont protégées dans le cadre de la loi de protection de la nature de 1974 et elles, chacune d'elles, en fonction d'un arrêté qui pour certaines ont été pris en 1993, d'autres même en 2007, c'est pas ancien, mais qu'on n'a pas le droit de les détruire, de les déplacer sans autorisation. Donc pour qu'il y ait la possibilité de le faire, il faut que le préfet prenne un arrêté après avoir suivi une procédure qui en particulier prévoit de consulter le Conseil national de protection de la nature. Alors, en l'occurrence, ça n'a pas été fait pour ces cinq espèces.
Et justement, Hervé Kempf, que vaut cette contre-expertise face à l'expertise qui avait déjà été menée?
Ce qu'elle vaut, c'est que d'abord, elle est faite par des professionnels. Il y a aussi des scientifiques amateurs au sein des naturalistes, mais ce sont des naturalistes, des botanistes, des biologistes, des spécialistes des mammifères ou des amphibiens. Ils ont passé plus de temps aussi, peut-être, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont fait plusieurs campagnes. Ils sont venus parfois tous les dimanches ou tous les 15 jours. Ils ont fait un inventaire beaucoup plus complet que des bureaux d'études qui étaient commandités par les promoteurs de l'aéroport, qui avaient déjà un conflit d'intérêts, il faut bien le dire, et qui, par ailleurs, passent moins de temps, par exemple, pas aux bonnes saisons, etc. Et donc, le travail des naturalistes en lutte est tout à fait intéressant. Il devrait être confirmé, évidemment, par d'autres spécialistes, mais il témoigne d'un suivi, d'une régularité dans le travail qui est tout à fait intéressant.
François de Beaulieu, en termes de biodiversité, justement, qu'est-ce que ça représente, les 1800 hectares supposés accueillir l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes?
Là, en l'occurrence, quelque chose d'unique à l'échelle du massif armoricain, c'est un bocage préservé sur une zone humide de très grande qualité. Et au départ, tout le monde croyait que c'était un milieu banal, et en fait, c'est un milieu très original qui permet à la fois à des paysans de travailler, et c'est pour ça qu'il est essentiel de maintenir ceux qui vivent, pour certains, depuis 5 générations là-dessus, et de l'autre côté, d'avoir cet ensemble qui fonctionne bien.
Quelles sont les mesures de protection prévues, qu'on appelle mesures compensatoires, qui étaient prévues pour l'instant?
Alors, c'est une arnaque complète, puisque le bureau d'études biotopes a proposé une méthode expérimentale qui reposait donc d'une part sur des inventaires qui sont incomplets, comme nous le montrons, et d'autre part sur des coefficients qui sont affectés de manière tout à fait arbitraire, comme l'ont montré les experts internationaux qui avaient été nommés par le préfet lui-même, pour, avec ces coefficients, arriver à une espèce de total d'un certain nombre de points qui sont ensuite compensés par la création, par exemple, de prairies que l'on ne retournerait pas dans des exploitations agricoles intensives qui seraient, pour cela, aidées par des financements d'aéroports Grand Ouest.
Alors justement, Hervé Kempf, qu'est-ce que ça peut signifier pour ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, cet inventaire d'espèces? Ça peut stopper complètement le projet ou pas?
Légalement, bizarrement, non. C'est-à-dire que les
avis... On sait qu'il y a des espèces qui ont stoppé la construction d'autoroutes, par exemple. Hein.
Oui, à condition que le tribunal administratif accepte les recours des associations.
Ouais.
Là, les recours des associations s'appuient essentiellement sur des avis consultatifs, qui sont là d'organismes tout à fait officiels. Il y a eu notamment le Conseil national de protection de la nature et le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité qui ont rendu des rapports extrêmement critiques sur le travail du cabinet biotope qu'a cité M. de Beaulieu. Mais c'est des avis consultatifs, même si ces organes sont très importants. Et donc, le préfet a pu passer les arrêtés, le tribunal administratif a dit « c'est la loi, on continue ». Donc, ça rajoute quand même le travail qui vient d'être fait par les naturalistes en lutte, rajoute une pièce supplémentaire quand même à l'interrogation scientifique qu'on peut se poser sur ce projet d'aéroport. Et d'autant plus, je vous le rappelle, que nous sommes bientôt dans une atmosphère de travail sur la loi de la biodiversité, qui est très importante de préserver la biodiversité.
Comment comptez-vous faire, François de Beaulieu, pour vous faire entendre? Parce que le défrichage devait commencer là en septembre, je crois, en janvier, pardon.
Bien, déjà, nous comptons nous faire entendre, comme nous l'avons fait et comme nous allons le faire avec d'autres, pour manifester. C'était samedi à Nantes. Ça va continuer avec des actions demain, après-demain, en raison de du fait que les agriculteurs risquent d'être expulsés par une décision du tribunal mercredi à Nantes. Et nous, on a écrit au préfet, on lui a envoyé des fiches très précises sur chacune de ces espèces avec leur localisation. La presse a pu même, pour une de ces espèces, la filmer, la photographier. C'est absolument indiscutable que ces espèces sont là et que si l'État veut nous parler par rapport à d'autres choses d'État de droit, il doit là faire respecter la loi absolument. Le travail a été mal fait au départ. Maintenant, respecter la loi, c'est faire le travail qui manquait.
Hervé, on peut juste signaler que c'est quand même un bel exemple de science participative, hein, avec cette mobilisation et les résultats obtenus.
Tout à fait. Vous savez, il y a, par exemple, le Muséum d'Histoire Naturelle recourt souvent à des citoyens, par exemple, pour faire des inventaires d'oiseaux. Eh bien là, c'est en quelque sorte une science participative à l'inverse, c'est-à-dire des scientifiques ont été faire du travail sur le terrain avec des citoyens, puisqu'il y a aussi souvent des visites publiques organisées par ces naturalistes et ces botanistes.
Vous avez un reportage de prévu sur reporter.net, peut-être?
Dans quelques jours, on va publier, effectivement, on va faire une enquête un peu plus fouillée sur ce sujet très important en lien avec les problèmes de biodiversité.
Merci beaucoup, François de Beaulieu.
Merci à vous.
Merci, bravo pour votre travail. Merci, Axel.
À demain, Mathieu.
Demain. À bientôt, Hervé. On se retrouve lundi prochain, bien sûr, avec Reporter. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un mythe scientifique vient de voler en éclats puisque, justement, les chercheurs ont découvert que notre corps ne contient pas 10 fois plus de microbes que de cellules, contrairement à ce que l'on pensait, mais sensiblement le même nombre. C'est ce que révèlent des chercheurs canadiens et israéliens qui ont réussi à réestimer ce chiffre à partir d'analyses ADN et d'images d'IRM. Ainsi, l'organisme d'un homme de 25 ans, mesurant 1m70, pesant 70 kg, est constitué de 30 milliards de cellules humaines et de 39 milliards de bactéries. Des éruptions volcaniques sur les parois de la grotte Chauvet, voici l'hypothèse d'une équipe française qui s'appuie sur la représentation de gerbes rouges qui auraient été tracées il y a 36 000 ans par les premiers hommes occupant la caverne, au même moment justement où les volcans étaient actifs dans le Vivarais tout proche. Pour vérifier que ces gerbes dessinées remontaient bien à la même période, ils ont réussi à les dater précisément grâce au carbone 14. Et puis enfin, cultiver de la pomme de terre sur la planète rouge, comme le fait Mark Watney dans Seul sur Mars, voilà l'idée très sérieuse que veut étudier la NASA avec le Centre International de la Pomme de Terre. Elle va tenter fin janvier de faire pousser le tubercule dans un laboratoire à Lima, au Pérou, reproduisant les conditions atmosphériques, la température, la gravité, le sol et le niveau de radiation de la planète martienne. 9 variétés de pommes de terre sélectionnées seront cultivées dans 80 kilos de terre du désert de la Roya. Ce sol aride est connu pour présenter des caractéristiques similaires à celles du sol martien. Premier résultat attendu en mars prochain, justement. Dans un instant, notre dossier consacré à la plasticité cérébrale, et ce sera juste après cet hommage à David Bowie.
get excited. My little China girl says, oh baby, just you shut your mouth. She says, shh. She says,
hommage toute la journée sur France Inter à David Bowie avec à l'instant souvenir de l'année 83, China Girl.
La tête.
La prise de conscience correspond à un changement très important dans le traitement de l'information dans le cerveau.
Au carré.
L'activité électrique s'embrase, un réseau particulier qui concerne les aires supérieures va s'allumer de façon synchrone et toutes ces aires vont être en dialogue.
Sur France Inter.
Et elles codent toutes pour le même objet mental.
Le cerveau est en quelque sorte un vaste épiderme ayant des ramifications visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles dans l'être tout entier.
Le cerveau est aussi le centre unique et vigilant, sous la domination duquel sont placées toutes cellules.
À toutes les régions du monde organique, ce centre, silencieusement, envoie des ondes.
Voilà, et la plasticité de cette machine incroyable qu'est le cerveau. C'est donc le thème de notre émission cet après-midi, comment notre cerveau se régénère à tous les âges de la vie. Pierre-Marie Liédeau, vous êtes directeur de recherche au CNRS, où vous dirigez le laboratoire Gènes, Synapses et Cognition, ainsi que celui de l'Institut Pasteur Perception et Mémoire. En 2011, vous avez publié avec Jean-Didier Vincent le cerveau sur mesure aux éditions Odile Jacob. Et les messages arrivent déjà très nombreux sur le site de l'émission pour vous. Je vais vous poser des questions jusqu'à 15h de la part des auditeurs. Pierre-Marie Liédeau, les découvertes fondamentales dont nous allons parler autour de notre cerveau sont des découvertes, vous le disiez tout à l'heure, très récentes dans l'histoire, au fond, des neurosciences. Est-ce que ce sont avant tout les nouvelles technologies d'imagerie qui ont permis de bouleverser ces connaissances autour du cerveau ?
Oui, tout à fait. Il a fallu attendre l'avènement d'outils autour des années 50-60 pour commencer à voir poindre quelques preuves de division, de prolifération de cellules dans un cerveau mature. Mais les objections ont été tellement fortes que les quelques pionniers ont perdu même leur métier. Il y a des histoires, il y a des livres à faire sur des chercheurs qui étaient extrêmement innovants et qui ont vu leur carrière mise à plat parce que le dogme était encore trop fort selon l'idée que le cerveau puisse intégrer des nouveaux neurones quel que soit l'âge, et c'était évidemment pas concevable dans la mesure où notre père à tous en neurosciences, qui est Ramón y Cajal, au début du siècle il obtient le prix Nobel, il a fait de merveilleuses descriptions du cerveau. Il faut aller voir dans les musées, dans sur les planches anatomiques, ces dessins à l'encre de Chine montrant avec précision que le cerveau finalement est un plat de nouilles. Oui, un enchevêtrement de circuits qui fait que, évidemment, devant cet objet si complexe, on a du mal à croire que on puisse retirer un élément de ce chantier et ne pas perturber l'ensemble. Vous savez, quand vous êtes pris dans les bouchons avec votre voiture, vous voyez combien les travaux dans une des artères principales peut-être d'une ville peut impacter tout l'ensemble du réseau. Et bien, donc, c'était l'idée qu'avaient ces pionniers au début du siècle, de dire que on ne peut pas remplacer des éléments dans un cerveau une fois que ce cerveau a atteint sa maturité.
Donc il y avait une fixité au fond, il y avait quelque chose de figé dans le cerveau.
Organe immuable, puisqu'il est le détenteur de notre mémoire. Ouais. Donc il y avait cette idée que pour inscrire des faits, il faut évidemment conserver sur ce support presque comme un disque dur de notre ordinateur. Et puis c'est aux années 50, 60 qu'on a commencé à avoir les premières preuves en utilisant des molécules marquées avec des particules des radioéléments, que l'on a pu voir que effectivement il y avait des preuves de division cellulaire. Et évidemment, comme je l'ai dit, ces preuves n'ont pas été suffisantes. En plus, dans les années 70-80, nous arrivons avec l'idée des pédopsychiatres et du constructivisme. Vous savez, cette idée selon laquelle le cerveau se développe par étapes successives. Je vais apprendre, je vais me focaliser sur l'apprentissage de la langue. Je vais me focaliser sur l'apprentissage de la marche. Mmh. Et donc, je ne peux pas tout faire en même temps. Il y a des étapes et on va parler de fenêtres d'opportunité pour acquérir telle et telle fonction. Et puis, une fois que la langue a été acquise, eh bien, les circuits vont se figer, vont se cristalliser pour passer à autre chose.
C'est
l'enfant sauvage de François Truffaut. C'est l'idée que l'enfant passe par des étapes qui, aujourd'hui, sont... Cette idée est très forte puisqu'elle dicte les programmes scolaires depuis le CP jusqu'en terminale. Donc, c'est que ce soit conceptuel, que ce soit d'un point de vue technique ou que ce soit les origines, c'est-à-dire épistémologiques, eh bien, il y avait trois objections majeures qui ont fait qu'il a fallu attendre les années 98, le tournant
incroyable,
finalement du 21e siècle, pour s'apercevoir que le cerveau, quel que soit son âge, il peut produire des nouveaux neurones.
Mais c'est intéressant de faire de l'histoire des sciences dans ces cas-là, parce qu'on voit que vraiment, il y a des découvertes fondamentales qui sont mais toutes jeunes, au fond.
Absolument. Et moi, je dis à tous mes élèves, quand je donne des cours, eh bien, si vous avez des théories extrêmement révolutionnaires, attendez d'abord d'avoir les outils, parce que sinon, vous serez jetés dans les oubliettes. Il faut, et ça, c'est évidemment peut-être aussi l'attrait le plus séduisant de la science, c'est cette conjonction entre la pratique et la théorie. On ne peut pas avoir des idées innovantes si on n'a pas encore les outils.
Ouais, donc il y a l'idée de plasticité du cerveau donc, qui est tout à fait nouvelle et révolutionnaire. Et puis cette autre idée, là, liée à vos découvertes, qui fait que ces neurones, on peut en fabriquer à tous les âges de la vie. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose de stupéfiant.
Oui, c'est stupéfiant parce que ça apporte un substrat au monde de l'éducation. Les sciences de l'éducation, on s'aperçoit que finalement, cette idée que le cerveau puisse... produire des nouveaux neurones. Quand on voit les quelques lois qui vont favoriser cette production de nouveaux neurones, on va s'apercevoir que la première loi, c'est d'avoir un cerveau ouvert à la nouveauté. En d'autres termes, on peut inférer qu'un des freins les plus puissants en matière de sciences de l'éducation, c'est l'ennui. C'est l'ennui.
Ouais.
Donc, il faut tout faire en tant qu'enseignant, de créer du désir.
Stimuler, c'est bon pour les neurones.
Éviter la routine.
Ouais. Extrait du film de Luc Besson, Lucie.
Oui.
Professeur Norman, je m'appelle Lucie. Je viens de lire tous vos travaux sur le cerveau et ses capacités. Il faut qu'on se voit.
Tous mes travaux. Eh bien, je suis très flatté, jeune fille. Mais je trouve ça assez difficile à croire. Je dois avoir rédigé pas moins de...
6734 pages. Je sais, je peux vous les réciter si vous le souhaitez.
J'ai lu votre théorie sur l'utilisation de la capacité du cerveau. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie.
Merci.
Professeur, mes cellules se reproduisent avec une rapidité phénoménale, plusieurs millions par seconde. Ce que vous avez écrit est juste. Une fois que le cerveau atteint 20%, il s'ouvre, ce qui provoque l'expansion du reste. Il n'y a alors plus d'obstacles. Il tombe comme une file de dominos. Je colonise mon propre cerveau.
Vous contrôlez votre métabolisme ?
Oui. Et je commence à avoir le contrôle du corps d'autres personnes. Je peux aussi contrôler le courant électrique et les champs magnétiques. Pas tous, seulement les plus basiques. La télévision.
Le téléphone. La radio.
C'est incroyable.
Alors, Pierre-Marie Liédot, est-ce qu'il y a une grande part de vérité dans ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, ce qui est séduisant, c'est de s'apercevoir que depuis une dizaine d'années, on voit poindre dans l'industrie cinématographique des films qui s'emparent de concepts modernes et nouveaux. On l'a vu avec Inception sur cette idée de contrôler son rêve. C'est évidemment ancré sur des faits scientifiques réels. On l'avait vu avec Avatar où le leitmotiv de ce film, c'est de voir ces objets fluorescents. Évidemment, l'objet le plus utilisé aujourd'hui par les biologistes, c'est cette fameuse protéine fluorescente qui vient de l'algue et de la méduse, pardon. Lucie, évidemment, s'est emparée de ces découvertes qui montrent que le cerveau peut produire des nouveaux neurones, mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement qu'ils les produisent, mais c'est qu'ils les utilisent.
Alors justement, Mathéo demande, qu'est-ce que vous pensez de la différence de fonctionnement des cerveaux entre ceux qui ont un haut potentiel, les personnes dites normales, les autistes? Est-ce que la régénérescence des neurones est la même pour tous?
Non, alors là on parle évidemment des intelligences multiples. On parle du fait que chaque cerveau est unique. Ça c'est alors une des conséquences, on peut le dire d'emblée, même si j'ai pas encore apporté les preuves, mais une des conséquences de cette plasticité, c'est de créer un être unique, un individu qui ne ressemble à personne. Et donc on le voit aussi au travers du fonctionnement de notre cerveau. Certains vont être beaucoup plus enclins vers le musical, d'autres dans la reconnaissance des formes, etc.
C'est lié à quoi ? À notre éducation, à notre environnement, non, des choses extérieures ou au contraire des choses innées?
Alors là, on rentre sur ce vieux débat d'Aristote entre l'inné et l'acquis. Si je dois me risquer à établir, à donner quelques chiffres, on pourrait dire que d'environ 40-50% de fonctionnement de notre cerveau dépend de l'héritage génétique. Merci papa, merci maman. Merci aussi à tous les congénères de mon espèce.
Ouais.
Mais il reste 50%.
On garde des traces de tous ceux qui nous ont précédés sur des générations entières.
Si vous avez un enfant âgé entre 3 et 7 ans, que vous allez l'embrasser le soir et vous avez oublié d'allumer la veilleuse, il vous rappellera l'ordre parce que c'est une phobie liée en fait au fait que nos ancêtres, qui ne maîtrisaient pas encore le feu quand ils rentraient dans des grottes, ils risquaient gros, hein, notamment de servir de déjeuner à un des ours ou à un de ces félins à dents de sabre. Donc ça, c'est une trace qui a été transmise génétiquement.
Mmh.
Voilà, mais 50% de reste va être acquis par l'environnement.
Oui.
Et c'est là où justement...
C'est ce qui fait la singularité de chaque cerveau, alors.
Voilà, exactement. Cette dimension-là qui fait que le cerveau, c'est une des caractéristiques du cerveau humain, c'est de naître inachevé. Il faut faire tous le deuil. Nous sommes nés grands prématurés, avec un déficit gestationnel. En gros, ce que je dis là, c'est que notre cerveau aurait bien aimé rester au chaud, dans un cocon humide, environ 4 à 5 mois supplémentaires. Mmh. Quand on le compare par rapport à l'état d'achèvement d'un cerveau d'un singe, nos cousins les plus proches. Donc, c'est ce qu'on appelle la néoténie, c'est-à-dire le cerveau humain né d'un double paradoxe. D'abord, il n'est pas achevé à la naissance.
Mais il a du temps après aussi pour
et
se perfectionner.
Et en plus,
hein.
Il prend son temps
c'est
pour
ça.
Se développer. Voilà
c'est
le
ça.
Double paradoxe. Ouais. Et c'est là où justement l'éducation, la culture va pouvoir imprimer sa marque dans les circuits, physiquement. Parce que si je nais en Chine, mes circuits de l'oreille musicale vont être sculptés par le mandarin. J'ai pas de gêne pour apprendre le chinois. J'ai juste une oreille musicale.
Allez, on se retrouve dans un instant, Pierre-Marie Liédo, avec les messages nombreux des auditeurs pour nous retrouver et parler du cerveau. C'est passionnant, c'est sur franceinter.fr.
Les insatisfaits, nous sommes les jamais assez, nous sommes les tout de suite, nous sommes les laissés bien trop vite. Nous sommes les vacances ratées, nous sommes les amours avortés, nous sommes les choix évités, nous sommes les erreurs oubliées, nous sommes mort-nés, mort-nés. Les bébés en pleine crise, nous sommes les oiseaux dans la brise, nous sommes l'été sans le pastis, nous sommes la mer sans les abysses. La vodka et le gin, nous sommes les voitures qui défilent, nous sommes les voix de la raison, nous sommes les enfants sans façon, les enfants sans façon, nous sommes des cons, mort-nés.
La dernière machine à la mode. Au XVIIe siècle, les machines les plus perfectionnées étaient les pompes. Alors on appelait le cerveau la grande pompe. Un siècle plus tard, on l'appelait la grande machine. Puis, le téléphone vint. Et le cerveau devint le grand standard, expliqué en termes de câblage et de connexion. Maintenant, nous disons le grand ordinateur et parlons entrée, sortie et mémoire.
Voilà, le cerveau, ce grand ordinateur. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire finalement, Pierre-Marie Liédeau, que notre cerveau est encore plus perfectionné qu'un ordinateur? Parce que précisément, d'après vos découvertes avec votre équipe de l'Institut Pasteur, eh bien justement, on voit que le cerveau, cette plasticité ne disparaît pas avec l'âge et qu'on est capable de fabriquer de nouveaux neurones en permanence.
Oui, tout à fait.
Ça, un ordinateur peut pas le faire tout
Absolument.
Seul.
Absolument. La métaphore du cerveau ordinateur ne tient pas ou ne tient plus en tout cas. Parce que quand j'utilise un ordinateur, que je l'utilise à la montagne au bord de la mer, il changera pas. Mon cerveau sera changé en quelques minutes, en quelques secondes. Nous regardons grâce à des fenêtres. On fait des petites fenêtres pour regarder ce qui se passe dans le cerveau au laboratoire. Et on voit cet objet aussi dynamique qu'une voiture pratiquement de sport passer devant nous. On a des échelles de la microseconde pour des changements.
Racontez-nous cette découverte, parce que c'est quand même aussi le point d'orgue de votre carrière.
J'espère qu'elle n'est pas finie, cette carrière.
Pour l'instant, évidemment, mais cette découverte, elle est absolument essentielle.
Oui.
Comment un jour vous tombez sur la régénérescence de ces neurones?
En fait, par un peu d'acharnement et surtout de la surprise. Et c'est-à-dire que nous étions occupés au laboratoire à étudier comment le cerveau se développe. Et une fois atteint l'âge mature, on pensait qu'on allait pouvoir donner une signature à ces neurones de neurones matures. Et notre grande surprise était finalement de s'apercevoir, quand on revenait sur ces neurones pour établir une loi générale, eh bien que cette loi n'était pas valable d'un jour à l'autre. Et c'est-à-dire que très vite, on s'est aperçu qu'il y avait un continuum de degrés de maturité dans un cerveau. C'est un peu comme faire de la paléontologie et de voir qu'il y a des strates et qu'à chacune de ces strates, vous pouvez donner un âge plus ou moins précis. Ce qui est intéressant, c'est que à ce continuum de maturité correspondent des fonctions différentes. Et donc, cet aspect qui consiste à voir le cerveau produisant des nouveaux neurones, c'est également voir le cerveau apporter de nouvelles fonctions ou des fonctions qui ne sont pas capables d'être assumées par des neurones pleinement matures.
Alors, j'en demande, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il y a création de nouveaux neurones et non pas création de nouveaux circuits activant des neurones déjà existants?
Or bien, c'est très simple. On utilise des substances qui rentrent dans l'ADN des cellules. Hein, vous savez, ce sont des fameux traceurs qu'on peut utiliser aussi pour voir l'évolution de métastases, donc des cellules des traceurs qui sont imperméables aux cellules, et la cellule doit se diviser pour intégrer, incorporer ce marqueur. Donc il est très simple de connaître la date de naissance d'un neurone, puisque vous avez le moment où vous avez injecté la substance, et vous pouvez ensuite comptabiliser le nombre de neurones nés à tel jour et à tel autre également.
Combien on en a des neurones?
Eh bien, vous savez qu'au total...
Et pas seulement dans le cerveau. Hein.
Au total, nous avons effectivement 86 milliards de neurones, ce qui fait le cerveau, l'organe, peut-être ou l'objet le plus complexe de la nature ou qu'un dieu aurait créé, sachant qu'en plus, les neurones ont pour vocation d'au moins recevoir 10 000 contacts. Donc, quand vous combinez les 100 milliards à peu près et les 10 000 contacts, vous arrivez à ce chiffre astronomique de 10 puissance 15. À cette complexité, il faut rajouter le fait que sur une seconde, un neurone émet entre 20 et 50 impulsions électriques. Ça veut dire que sur une minute, vous avez généré des téraoctets. Vous savez, c'est pour ça que on est un
peu
parfois...
C'est des super calculateurs, là.
Parfois un peu porté à cette analogie avec le cerveau, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le cerveau a cette particularité, c'est de réagir à l'environnement et d'inscrire ces changements de l'environnement dans ces circuits.
Mais on associe toujours les neurones au cerveau. Or, il en existe ailleurs dans le corps.
Absolument. Il y a environ 200 millions de neurones qui ne sont pas dans la boîte crânienne. Ouais. Ceci arrive comme une
surprise. C'est pas beaucoup quand même par rapport aux milliards du cerveau. Hein.
Non, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même suffisant pour établir la relation entre l'âme et le corps, entre le cerveau et le corps. C'est-à-dire que ce sont des neurones qui sont à l'écoute de ce qui se passe dans le tube digestif. Ce sont des neurones qui sont à l'écoute de ce qui se passe dans les réactions physiologiques du corps.
On les trouve partout?
On les trouve essentiellement avec les organes vitaux. Vous avez des neurones qui vont évidemment contrôler de façon automatique le rythme cardiaque, la respiration, la digestion.
Ouais. Et combien de neurones peuvent se régénérer par jour? Alors, on a une idée aussi, ça?
Alors, précisément, nous savons que dans une structure que l'on appelle l'hippocampe, parce qu'elle ressemble beaucoup au cheval marin, c'est une structure d'ailleurs qui est importante puisqu'elle nous permet de mémoriser l'information spatiale. C'est grâce à cette structure que je peux aller de mon domicile au travail. C'est une structure aussi qui régule nos émotions. Eh bien, nous avons par jour environ 700 cellules. Alors, c'est pas grand-chose par jour, mais il y a un effet cumulatif qui fera qu'à partir de 50 ans, tous les neurones qui ont été produits durant l'embryogenèse auront disparu au profit de neurones qui seront produits à l'âge adulte.
Donc là, on passe l'éponge et hop,
Tabula rasa et on recommence. Exactement. Et je peux comme ça apprendre en permanence de nouveaux chemins pour aller du travail à la maison.
Ludovic nous écrit de Taïwan et on le salue chaleureusement. Il nous dit ceci. Les neurones se régénèrent, d'accord, mais quid de leur connexion? Avoir plus de neurones si ils ne sont pas correctement interconnectés, ça ne sert pas à grand chose, ou alors c'est justement le grand nombre de neurones qui favorise ces interconnexions?
Alors, en fait, il est vrai que l'impact de ces nouveaux neurones n'est pas par leur nombre, mais il est par les connexions qu'ils vont pouvoir établir. Et le fait le plus remarquable pour nous, en tout cas, a été de constater que l'arrivée de ces nouveaux neurones modifiait les connexions préexistantes. Donc, vous avez un phénomène qui va s'amplifier, un peu comme par propagation, sous le fameux battement des papillons, vous savez.
Et donc, c'est tout sur son passage.
Ça modifie le préexistant, ce qui nous, évidemment, pose problème lorsqu'on envisage d'utiliser des nouvelles cellules à des fins de thérapie. Vous voulez restaurer des circuits, mais vous voulez pas non plus modifier les circuits préexistants.
Ah ben justement, c'est une question de Christophe sur Twitter. Comment le remplacement des anciens par les nouveaux neurones peut se faire sans perturber le bon fonctionnement du cerveau?
Ce sont des thèmes de recherche d'actualité. Et pour l'instant, nous n'avons pas la clé. Mais il est vrai que c'est l'enjeu le plus vital aujourd'hui quand on envisage d'utiliser ce potentiel qu'a le cerveau de produire des nouveaux neurones pour s'auto-réparer. Que je pense à la maladie de Parkinson ou que l'on pense à la maladie d'Alzheimer, toutes ces maladies dites neurodégénératives.
Larry demande, trop de plasticité cérébrale, est-ce que ça ne pourrait pas être nuisible pour le cerveau?
Alors c'est une intéressante question parce que effectivement avoir une plasticité cérébrale, c'est-à-dire conserver une grande disposition à ressentir le monde dans lequel nous vivons, peut être exactement l'effet inverse de l'adaptation, puisque là vous aurez des troubles de la maladaptation. Le sujet finalement aura du mal à un moment donné à donner du sens dans le monde dans lequel il vit si à chaque fois il subit un changement radical.
Ouais. Alors Pierre-Marie Liedot, qu'est-ce qui favorise, au fond, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, cette régénération, cette fontaine de jouvence? Comment on peut au fond la susciter?
Bien, en fait, on s'aperçoit que la première des lois, c'est que ce cerveau doit échapper à la routine. C'est-à-dire que ce sont des circuits qui vont être impliqués dans le traitement de l'information sensorielle venant du monde extérieur. Mais si cette information se répète, bien, il y a des phénomènes dits classiques d'habituation, qu'on appelle ça en psychologie, mais dans le langage quotidien, ça veut dire exactement la même chose. Et donc, lorsque nous échappons à l'habituation, au fait que les informations se répètent, eh bien, ces nouveaux neurones vont être sollicités. Donc, une des premières lois que l'on doit respecter pour que ce cerveau continue à produire des nouveaux neurones, ceci quel que soit notre âge, c'est d'éviter la routine.
Ouais. Et le bien-être, ça aussi c'est important, on en avait parlé avec vous déjà dans cette émission, cette notion de bien-être, alors le bonheur, le bien-être, on appelle ça de différentes façons, mais elle est essentielle aussi, c'est-à-dire tout ce qui va contrer le stress au fond.
Oui, alors il y a deux choses qu'il faudrait dire. La première, c'est une parenthèse, mais il est peut-être un tout petit peu regrettable qu'aujourd'hui on convoque le bonheur et le bien-être en permanence. Ça ne peut pas être un état permanent.
Vous trouvez qu'il y a une injonction au bien-être?
Une injonction au bien-être qui se traduit par des succès littéraires qu'on connaît, on ne va pas citer ces fameux ouvrages. N'oublions pas simplement que le bonheur fait partie de ces états d'âme et donc d'une fluctuation. La vie, c'est une fluctuation, c'est une alternance. Bon, je reviens maintenant sur l'idée que on s'aperçoit que un des freins les plus puissants qui viendra bloquer cette fontaine de jouvence, eh bien, ce sont l'alchimie qui accompagne le cerveau stressé, c'est-à-dire que
une oxydation, par exemple.
En cas je pensais plus exactement aux hormones du stress chronique, notamment le cortisol. Eh bien là, dans des boîtes de plastique, quand on suit nos nouveaux neurones dans un milieu qu'on contrôle bien, on peut effectivement s'apercevoir qu'avec des taux de cortisol guère plus élevé que celui d'un sujet qui vit un stress durant 2-3 semaines, eh bien, ces nouveaux neurones perdent toute capacité à se mouvoir. Alors, la prolifération est une fonction, je dirais presque par défaut, autonome dans notre cerveau, mais là où tous les sujets sont uniques et peu identiques les uns aux autres, c'est leur sensibilité à ce stress-là, puisque vous allez avoir donc cet effet des hormones qui viendront figer les nouveaux neurones qui sont censés migrer, puisque ces nouveaux neurones naissent dans un lieu où ils n'ont pas lieu d'être, de travailler. Il leur faudra donc migrer. Et durant cette migration-là, eh bien, on voit ces neurones être plus ou moins enclins à voyager, selon que vous puissiez trouver l'alchimie du bien-être, notamment la dopamine ou la sérotonine, qui vont faciliter ces mouvements de migration. Et en revanche, le cortisol va geler ces neurones. Et qui vont ensuite disparaître.
Alors c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'on peut à la fois régénérer nos neurones parce qu'on est dans de bonnes conditions et dans un bien-être qu'on peut vérifier, mais à l'inverse, justement, on peut détruire ces neurones.
Oui, ces neurones se détruisent. En fait, on ne va pouvoir rien faire, c'est eux-mêmes. Il y a des fameux programmes de suicide cellulaire, qu'on pourrait qualifier de suicide cellulaire, de mort programmée, si vous voulez, qui font que le nouveau neurone, lorsqu'il a voyagé, après un certain nombre de jours, doit trouver un partenaire. S'il n'a pas trouvé de partenaire, il s'auto-détruit.
Yeah.
Floridada avec Animal Collective.
La tête.
Connais-toi toi-même, disait le sage.
Au carré.
La meilleure façon de se connaître est d'abord de connaître son cerveau.
J'étends ma main, je marche, je parle.
Sur France Inter.
Alors, il y a une liste de mots sur ce tableau. Je vais lire ces mots. Ensuite, Karine va les relire. On les cache. Et vous devez après nous redire, retrouver le plus de mots possible. Crayon, modeste, platane, grâce, confiture, troupe, neige, réalité, touriste, silence. Alors Karine, tu les relis.
Crayon, modeste, platane, grâce, confiture, troupe, neige, réalité, touriste, silence.
Vous les avez vus et entendus deux fois. On les cache. Alors vous allez essayer de retrouver sur vos papiers le plus de noms possible. Et on cherchera après à savoir celui qui a fait le meilleur score, celui qui a s'est rappelé le plus de mots.
Voilà, c'est en 85 dans Les Chemins de la Mémoire sur France 3. Pierre-Marie Liédot, on entend ses enfants hein, et cet exercice justement lié à la mémoire. D'abord, est-ce que c'est un travail de neurones aussi? Est-ce que c'est directement lié, mémoire et neurones?
Ah, tout à fait, il n'y a pas d'autre stockage possible en dehors des neurones. Évidemment, il n'existe pas de neurones grand-mère, neurones. Ce sont des informations qui vont être partagées par des circuits d'au moins plusieurs centaines de neurones.
Oui. L'âge de ces enfants, enfin l'âge de ces êtres humains, il est très important aussi parce que c'est un âge où il se passe beaucoup de choses là dans le cerveau précisément.
Oui, enfin, ce qui se passe, la raison pour laquelle on apprend beaucoup plus facilement à des âges précoces que tardifs, c'est simplement le désir d'apprendre et cette fameuse, ce désir mimétique qui avait été théorisé par René Girard, c'est l'idée que l'enfant a envie de se transformer en adulte et donc il est avide de ressembler à des adultes et donc il est insatiable en matière de connaissances. Ce qui se passe ensuite quand on avance dans l'âge, la raison pour laquelle la mémoire devient peut-être un peu moins fiable, c'est simplement qu'il y a un émoussement, le désir s'amenuise.
Émile demande, est-ce qu'on perd des neurones en buvant excessivement, en prenant de la drogue ou en ne s'intéressant plus à rien?
Alors, on peut effectivement parler des substances qui sont plutôt des freins à cette plasticité cérébrale. Ce sont toutes les substances qui vont cibler l'inhibition. Il y a le yin et le yang dans notre cerveau. Il y a une balance entre l'excitation et l'inhibition. Et tout ça, quand c'est bien ajusté, tout va bien. Dès l'instant où vous renforcez le poids de l'inhibition, vous freinez évidemment les vitesses de calcul, vous freinez la prise de décision. Hein, c'est le cas de l'alcool.
Ouais.
C'est le cas des anxiolytiques. C'est très utile les anxiolytiques puisque si je pars au travail et que je rumine, j'aurai des problèmes d'attention, je peux avoir des accidents. On peut soulager la personne qui rumine avec les anxiolytiques en renforçant l'inhibition, mais pris de façon chronique sur plusieurs mois voire années. La même chose pour les somnifères. Eh bien, on a établi des relations qui montrent que un sujet qui prend de façon chronique ces substances-là voit sa probabilité multipliée par 7 de développer une maladie neurodégénérative.
Nicole demande, mon petit-fils, elle nous dit ceci, est classifié enfant précoce dans un environnement très intellectuel, est-ce qu'il ne risque pas à un moment de péter un câble par trop de stimulation?
Alors les enfants ont ce pouvoir-là de toute façon de se mettre dans une bulle quand ils ont une saturation, ce que ne savent peut-être plus faire les adultes sous forme presque d'addiction à l'information. Les enfants savent faire ça naturellement, et c'est ce qu'on appelle le vagabondage intellectuel, qu'il faudrait plutôt favoriser chez nos enfants, c'est-à-dire ne rien faire, regarder les nuages passer.
Ouais. Evelyne sur Facebook nous dit ceci, est-ce que nos cerveaux continuent de produire des neurones après un AVC? Alors, cas particulier?
Alors, il est intéressant de s'apercevoir que dans les facteurs qui vont promouvoir les migrations de neurones, on s'aperçoit que les facteurs liés à l'inflammation sont en fait permissifs. C'est-à-dire qu'un territoire qui souffre, notamment lors d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral, eh bien, ce sont des territoires qui vont agiter un tout petit drapeau en disant « c'est par ici qu'il faut acheminer des neurones ». Et on a vérifié ceci dans mon laboratoire en implantant des cellules dans ces territoires et voir que leur chance de survie à ces nouveaux neurones était augmentée parce qu'il y avait eu au préalable un AVC.
Michel nous écrit ceci, est-ce qu'on peut définir l'esprit comme une simple propriété émergente de la complexité de la base physiologique que sont les neurones, leurs connexions, etc.
Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, bien que le vent porteur aujourd'hui soit un réductionnisme matérialiste. Je pense que le cerveau, effectivement, peut être abordé comme un objet d'une masse plutôt grise, d'un certain volume, 1400 cm3, un poids, 1,5 kg, etc. Mais il existe des propriétés dites émergentes qu'on voit dans les systèmes complexes qui font qu'on ne peut pas comprendre des processus comme la pensée au travers d'un mécanisme simple, d'une protéine interagissant avec une autre, par exemple.
Christophe vous pose cette question. Comment le cerveau peut conserver des souvenirs pendant toute la vie si justement les neurones en question se renouvellent ? Alors on n'efface pas les choses pour autant. Hein.
C'est toute la question. C'est toute la question. Et on est en train de penser aujourd'hui que c'est parce qu'il y a un renouvellement de neurones que des informations peuvent perdurer tout le long de la vie d'un sujet, puisque c'est les nouveaux neurones qui vont participer au stockage de l'information quand un neurone préexistant aura défailli.
Donc il y a une sorte de passage de relais au fond.
Passage de relais et on maintient comme ça l'information distribuée.
Sylvie nous dit ceci, ma fille est autiste et non verbale, elle a 36 ans. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour on pourra activer les zones du cerveau et les neurones qui ne travaillent pas pour qu'elle puisse peut-être un jour parler ?
Il est certain qu'on s'aperçoit, puisqu'on parle de plasticité, que la plasticité ne concerne pas uniquement cette fontaine de jouvence et donc la régénérescence de certains territoires à partir de cellules souches, mais la plasticité concerne aussi l'action d'hormones, ce qu'on appelle aussi l'épigénétique, les phénomènes de l'environnement qui viennent modifier et sculpter les circuits. Eh bien, on s'est aperçu depuis maintenant quelques années que certaines hormones, notamment l'ocytocine, peuvent rétablir, si vous voulez, des fonctionnements de territoires qu'on peut qualifier de cerveau social. Ce sont des territoires qui n'ont pas un lien direct avec le langage, mais par exemple avec le langage non-verbal, tout ce qu'on fait avec notre corps.
Oui, il y a des expériences intéressantes avec l'ocytocine d'ailleurs. Hein. Un petit spray d'ocytocine par exemple, et les choses fonctionnent mieux ?
Je pense qu'on devrait traiter comme ça les serial killers. en tout cas, il a été montré que des traders qui partaient à Wall Street, eh bien, après 6 mois d'injection d'ocytocine quotidienne par spray dans leurs narines, eh bien, on a montré qu'effectivement, ils avaient évité soigneusement les hedge funds, tous les placements à risque. Ils avaient cherché à maximiser l'intérêt pour la collectivité et non pas pour quelques individus.
Donc ça suscite l'empathie,
c'est l'hormone, le rapprochement social. C'est l'hormone du lien social, c'est ça, de l'empathie, de la compassion.
Pierre-Marie Liédo, évidemment, avec toutes ces découvertes dont vous avez une grande responsabilité, il y a des perspectives thérapeutiques et éthiques qui sont formidables. Du point de vue de l'apprentissage, de l'éducation, on entendait la voix de Stanislas Dehaene tout à l'heure, mieux comprendre le cerveau, c'est aussi complètement revoir l'éducation des enfants, par exemple.
Oui, j'ai juste un regret par rapport au domaine des sciences de l'éducation, c'est que jusqu'à présent, il y a beaucoup de théories en neurosciences et elles ne sont pas forcément appliquées. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Le monde des sciences de l'éducation a plutôt pris l'attitude empirique. On essaye, on a des théories, on a presque les résultats avant même de mettre en œuvre la pratique. Je trouve que ça mérite, comme toute approche scientifique, une approche expérimentale avec des statistiques et tirer les conclusions, ça marche ou ça marche pas.
Mais pourquoi encore ces refus quasiment justement de mettre en pratique ces découvertes essentielles ?
Eh bien, c'est les mêmes refus qui ont fait que la plasticité cérébrale a mis du temps à être explorée. Ce sont des refus plutôt dogmatiques parce qu'on a des idées conçues. Préconçus, qu'on a du mal à les challenger ou à les mettre en tout cas en application par l'expérience.
Qu'est-ce qui nous reste à découvrir encore d'essentiel autour du cerveau, Pierre-Marie Liédo ?
Je pense qu'on connaît très peu. Hein. Il faut rester très modeste et je ne me donnerai pas la rhétorique des promesses. On connaît à peine 10 à 15% de toutes les fonctions qui sont opérées par notre cerveau. Je pense que les défis de demain, c'est mieux connaître ce cerveau social, justement.
Ouais. Merci beaucoup d'être venu. C'était passionnant comme toujours. On pourrait faire des émissions quasiment toutes les semaines sur notre cerveau. Vous avez publié, je rappelle, en 2011 avec Jean-Didier Vincent, Le cerveau sur mesure. C'est chez Odile Jacob et c'est toujours disponible pour ceux qui s'intéressent également à cette question fondamentale autour du siège de notre pensée. Merci Pierre-Marie Liédo et au plaisir de vous retrouver dans La Tête au Carré. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Avec votre cerveau, de quoi allez-vous nous parler tout à l'heure?
Je vais vous raconter une histoire qui montre que pour certains, il n'y a pas embouteillage au niveau des neurones. Je parle de ceux qui qui ont condamné Gabriel Russier, l'affaire Gabriel Russier, cette enseignante qui a eu une relation avec l'un de ses élèves et qui a donné le film d'André Cayatte, Mourir d'aimer. Notre invité, ce sera Michel Viau, qui était pasteur à l'époque des faits, qui a accompagné Gabriel, l'a soutenu.